Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je reçois Nina, qui a 33 ans et qui est éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. À travers son rapport à l'amour, Nina nous raconte son histoire. Elle a été abandonnée à la naissance, puis a été adoptée à l'âge de 3 mois. Elle raconte donc la difficulté de sa construction identitaire, la question des origines, le sentiment d'abandon, le fait de se sentir pas légitime par rapport à sa souffrance. Elle parle de sa peur de plaire aux hommes quand elle était jeune adulte, d'avoir recherché l'excès pour se sentir vivante et d'avoir adopté des conduites à risque avec des addictions comme l'alcool ou la consommation de drogue pour faciliter les rencontres. Elle raconte comment elle s'est manquée à elle-même pendant des années, comment ses relations ont pu être compliquées et l'état d'apaisement dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup à Nina pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'Amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier@gmail.com. Toutes les infos sont en description. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Alors, est-ce que tu peux me parler pour voir ?
Est-ce que tu m'entends bien ?
Oui, je t'entends plutôt pas mal.
Là, c'est bon ?
Est-ce que tu peux me dire ce que tu as mangé à midi ? C'est toujours mes questions nulles, mais qui fonctionnent.
Alors, j'ai mangé des boulettes végétariennes, du taboulé, des carottes râpées et un petit gâteau à la framboise.
Pas mal, franchement.
Mon nourriture de la cantine, donc c'était pas non plus...
Ouais, mais ça
fait... Ça a l'air envoyé comme ça, mais c'était pas ouf.
Ça fait petit plat printanier, en fait.
C'est ça.
Tu vois. Et je regardais ton mail, et en fait, tu m'en avais envoyé un sur mon site aussi. J'ai vu deux fois ton adresse mail.
Oh là là, j'ai fait ça, mon Dieu. Non, mais oui, bah oui.
Mais je me suis pas rendu compte.
Bah évidemment, j'ai dû faire ça.
Bah écoute, c'est très bien. Le résultat, je l'ai vu, tu vois.
Non, mais c'est fou, parce que moi, je pensais vraiment pas que tu le verrais. Non.
Mais je t'ai répondu un peu tardivement, non ?
Ouais, c'est
parce
ça.
Que j'ai revu un peu, enfin, je fais souvent des sessions, tu vois, tout d'un coup, où je revois les mails que j'ai reçus, mais peut-être il y a un mois, deux mois.
Ouais.
Et puis je suis là, coucou. Coucou, ça te dit de m'enregistrer toujours avec moi ?
Ouais, non, bah, j'ai eu hyper peur, je me suis dit, oh mon Dieu, mais elle m'a répondu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je le fais vraiment ? Bah ouais, je pense que j'avais le fait de faire cette démarche, de te parler, ouais. Ça faisait déjà un peu, tu vois, partie d'un travail dans lequel je suis depuis, je dirais, 2 ans.
Ouais.
Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes.
Ok. Et du coup, genre, ça devient concret.
Ça devient concret. Donc, j'y ai pensé pendant 2 semaines. J'ai repensé à mes histoires amoureuses. Je me suis dit, mais comment je vais tourner le truc ?
Oh.
Et puis, ça m'a fait vachement travailler. Donc, en fait, je ne sais pas du tout ce que je vais dire aujourd'hui.
T'inquiète.
Parce que, voilà, quoi. Ça... Mais en tout cas, ça crée du mouvement et ça, c'est cool.
Trop bien. Ça va être trop bien, je suis sûre. Bah, écoute, c'est parti. Je suis avec Nina aujourd'hui. Comment ça va ?
Bah, écoute, ça va. Un peu émue d'être avec toi parce que j'ai beaucoup entendu ta voix, surtout le dimanche matin quand j'écoutais tes podcasts. Et là, je reconnais ta voix, je suis là, tu es là. Enfin, c'est complètement délirant pour moi. Mais ouais, très émue et très contente d'être là.
Délirant carrément.
Ouais.
Ah ouais, c'est un grand mot quand même.
Ouais.
Moi, je suis là, tranquille, je t'accueille en pige, limite. J'ai trop bien. Mais écoute, je suis ravie de t'avoir. Donc oui, ce que je disais juste avant, c'est que tu m'avais envoyé un mail. Et comme souvent, je fais des sessions rattrapage. Donc ne soyez pas étonnés si je ne réponds pas pendant un moment. Et tout d'un coup, je suis là, salut, c'est super, tu m'intéresses. Viens, on enregistre. Et tu m'as répondu favorablement, donc je suis trop contente. Pour commencer, je veux bien, tu m'en as un peu parlé juste avant et ça m'intéresse fortement, que tu me racontes un petit peu ton parcours, quel âge tu as et d'où tu viens.
Alors j'ai 33 ans, je suis éducatrice spécialisée, je travaille en pédopsychiatrie, c'est un métier qui est hyper important pour moi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais moi je pense que ça m'a vraiment sauvé la vie de rencontrer cette profession, de la faire comme je la fais dans le lieu dans lequel je bosse. Je te disais aussi tout à l'heure que là, bon, c'est une journée très particulière parce que je change de travail.
Ouais.
Alors comme tu me l'as très bien dit, je ne change pas complètement parce que je reste en pédopsychiatrie. Mais là, je vais être dans un secteur où je vais un peu plus travailler avec les familles, où j'aurai peut-être l'opportunité de faire de la visite à domicile. Mais donc voilà, c'est 10 ans de ma vie qui vont se terminer dans quelques semaines. J'en ai parlé à mon équipe tout à l'heure. Donc voilà, c'est une journée vraiment très forte pour moi.
10 ans de ta vie, c'est assez énorme.
Ouais.
Et ça veut dire que tu as fait tout de suite des études, tu t'es tout de suite dirigée dans ce secteur-là. Tu savais que tu voulais faire ça depuis longtemps. Comment ça s'est passé?
Alors, tu sais, c'est ces moments où tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'as pas les mots pour le dire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, EduxP et m'intéresser au psychisme, je pense que ça a toujours été en moi.
Okay.
C'est aussi ce qui m'a permis de tenir et puis de traverser des périodes très compliquées dans ma vie. Mais tu vois, le travail d'éducateur spécialisé, je ne connaissais pas.
Ouais.
Et puis, bon, tu peux retrouver des EduxP dans plein de champs différents, dans l'insertion, dans la protection de l'enfance. Et c'est mon père qui m'avait un peu forcé à faire une prépa sociale parce qu'il voyait que je commençais à bien végéter après le bac et que je faisais plus grand-chose.
Ouais.
Et ça a été vraiment une révélation, quoi.
Une prépa sociale, c'est
ouais.
quoi?
C'est-à-dire que tu prépares les concours pour entrer dans des écoles de travailleurs sociaux,
okay.
donc assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, EduxP. Bon, j'y suis allée sans grande conviction et en même temps, il fallait quand même que je fasse quelque chose, quoi.
Ouais.
Et j'ai commencé à faire des stages avec des adultes en situation de handicap ouais. mental. Ça m'a beaucoup intéressée, mais c'était tu vois, pas encore tout à fait ça.
Ouais.
Je suis rentrée dans une école d'EduxP où, pareil, ça a été un moment très fort pour moi parce qu'en passant les concours d'une école, je suis arrivée première du concours.
Wow.
Et pour moi, ça a eu une signification très forte dans le fait de me sentir légitime à exister, à apporter quelque chose.
Ouais.
Ce qui, pour moi, était vraiment pas clair à l'époque.
Okay.
Et pendant ce parcours d'école d'EduxP, j'ai découvert la pédopsychiatrie dans un hôpital de jour, où là, ça m'a complètement passionnée. Et puis après, bon, bah, c'était évident que je voulais être en hôpital de jour pour enfants, que je voulais le faire dans une approche psychanalytique et avec ouais. de la psychothérapie institutionnelle. Et pour la petite histoire, ce lieu-là va rencontrer dans quelques semaines, le lendemain de mon départ,
ouais.
Mon institution. Pour
okay.
parler du travail, et j'y serai. Donc juste avant d'avoir mon nouveau
ah,
poste, il y aura les deux lieux qui m'ont ouais. vachement construite, tu vois, dans mon identité professionnelle. Enfin, je
ouais.
trouve que c'est incroyable comme
ouais,
hasard.
C'est
un peu, tu sais, la boucle qui se
carrément.
Boucle, quoi. Et c'est juste dingue. Donc,
trop bien.
Voilà.
Et ça veut dire que tu suivais, donc, enfin, tu suis toujours, mais des petits depuis une dizaine d'années, enfin, carrément
ouais.
10 ans depuis
ouais.
que tu y es.
C'est ça.
Ouf.
Là où je okay. travaille, ils sont accueillis à partir de 5 ans.
Ouais.
Et puis, bon, ils commencent à partir vers 14-15 ans, parfois un peu plus tard, tu vois, selon les places disponibles dans des lieux intéressants pour eux. Mais donc, quoi, il y a des jeunes que je... Bah, que j'ai plus vu que mes amis, que
oui,
ma famille, tous réunis, quoi.
C'est d'être hyper fort, quand même.
Ouais,
comme,
ouais, ouais
comme
c'est très, très fort. En plus, j'ai tendance à m'investir beaucoup,
ouais.
À y mettre aussi de l'affectif, hein, parce
ouais.
que, voilà, entre nous, il se passe quand même beaucoup de choses. Ils me connaissent aussi bien que je les connais. Après, tu vois, je pense aussi, ça m'a fait réfléchir, là, de changer de boulot et d'être moins au contact du quotidien des enfants. Est-ce que c'est pas venu un peu à un moment... m'empêcher de penser à ma propre vie de famille. Parce qu'à force d'être avec les mêmes collègues,
ouais.
D'être avec les mêmes enfants, que t'investis très fort, alors évidemment pas comme tes propres enfants, mais il se passe quand même quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il y a certains projets, tu vois, que j'ai pas pu penser pour moi aussi.
Okay.
Et là, je me suis rendu compte que bah, il y aurait pas autant d'enfants autour de moi tous les jours ou qu'ils me mettraient pas à la même place. Et donc voilà, ça réveille
okay.
certaines questions.
trop bien de s'y intéresser et d'y réfléchir, quoi.
en tout cas.
Ok, super. Bon, j'aimerais continuer à parler longtemps de ce sujet. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Mais on ne va pas s'en sortir si on continue, je pense, dessus. On est là pour parler d'amour, pour parler de toi et d'amour.
Ouais.
Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour? C'est ma première question que je sors à chaque fois en ce moment.
Et oui, c'est la question à laquelle je pense depuis 2 semaines. Je sais qu'on va se rencontrer.
Tu
et
l'as
ça
préparé.
A été terrible. Mais non, mais justement,
c'est bien.
J'ai tellement essayé de la préparer que je n'ai pas du tout réussi.
Très bien.
D'ailleurs, c'est une question qui m'angoissait pas mal.
Mais
sans
si tu
doute...
veux, on y va pas.
Ah non, mais,
pas
mais non, mais j'ai très envie de l'aborder quand même. C'est la grosse maso. Non, non, j'ai très peur, mais je vais y aller quand même. Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose en ce moment pour moi d'assez distant.
Ok.
Je vis beaucoup l'amour dans ma tête en ce moment. C'est
ouais.
très imaginaire. J'ai du mal à rencontrer des hommes.
Okay.
J'ai du mal aussi à imaginer, à me projeter avec quelqu'un. En tout cas, les hommes que je rencontre, tu vois, le peu d'hommes
ouais.
que je rencontre. Je pense que c'est quand même beaucoup lié au fait que ma dernière grosse relation s'est très mal passée. Alors, c'est pas la seule qui s'est
okay.
mal passée. Est-ce que c'était parce que c'était celle de trop Ou est-ce que parce que j'ai peut-être réalisé plus de choses sur mon mode de fonctionnement qui fait que là, j'ai eu très peur de reproduire les mêmes erreurs.
Okay.
Donc, ça m'a pas mal arrêtée, tu vois. C'est comme si ça avait un peu inhibé mon désir, quoi. Tu vois, qu'il y avait quelque chose que j'étais plus capable de faire. Moi qui étais en plus avant une très grande dragueuse, mais vraiment, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que j'abordais les mecs dans les bars, je leur offrais des verres, je ramenais des groupes de mecs à mes copines, ah bah coucou, enfin tu es entremetteuse à fond. Et bah là, pour moi, c'est plus possible du tout. Il y a quelque chose qui est très, presque gelé, tu vois, un peu hivernal. J'espère que mon état va s'aligner avec le temps d'aujourd'hui, qui est très printanier et très beau.
Je ne sais pas si on a pu l'entendre, mais il y avait des petits oiseaux
qu'on
pouvait nous entendre là derrière. C'était joli.
Mais ouais, c'est assez distant. Je sens que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a beaucoup de peurs et des peurs assez nouvelles. Donc voilà, j'essaye de les appréhender. J'essaye aussi de ne pas trop les cacher avec des stratégies que je pouvais avoir avant.
Genre,
picoler un peu trop, me mettre dans un personnage, nier ce que je ressentais aussi. Donc là, j'essaye déjà d'être beaucoup plus authentique dans mes rencontres et avec moi-même surtout, parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément su faire avant. Voilà.
Et tu dirais que ça fait combien de temps que tu es dans cet état d'esprit un petit peu ?
Ah bah ça fait 2 ans.
Ok. Oui, on n'était pas sur l'hiver là récent, les quelques mois récents.
Ouais, non, c'est un long. Non, on est sur du Game of Thrones là. Winter is coming, on est là-dessus. Ouais.
Oui, c'est un peu plus long. Donc 2 ans, et tu parlais de ton ancienne relation, du coup, c'était après ta séparation.
Alors, la relation s'est très mal passée, mais effectivement, en fait. Si tu veux, c'est un couple où j'ai vraiment réalisé... Alors, il n'est pas question de dire que c'était quelqu'un de pas bien ou moins bien que les autres. Par contre, c'est dans cette relation que j'ai réalisé à quel point j'étais capable de faire vaciller des valeurs très importantes pour moi pour garder un lien. Et en plus, un lien qui n'était pas si concret que ça. C'est-à-dire un lien plutôt imaginaire. Tu vois, ce n'était pas pour garder la relation telle qu'elle était. Je restais et j'acceptais effectivement de me couper de choses importantes pour la relation qui aurait peut-être pu advenir. Tu vois ce que je veux dire ?
Qui n'était même pas
présente. Mais qui
n'était
pas là.
Ouais.
Non. Okay. Non. Donc, tu sais, c'est quand t'es pas bien avec quelqu'un, mais tu te dis peut-être que dans un mois, ça sera super. Ouais. Et puis dans 10 ans, ce sera super.
Oui.
Et en fait, non.
Sans que ça ait jamais été vraiment super ?
Mais non.
Même pas, tu sais, pour revenir au début où c'était incroyable.
Non, je crois qu'on s'aimait très fort, ça oui. Et c'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, depuis 5 ans. Donc, on s'aimait déjà d'un amour amical. Et puis après, on s'aimait d'un amour amoureux. Mais je crois qu'entre nous, il y a toujours eu beaucoup de rapports de force.
Okay.
Je crois qu'il y a eu un gros malentendu de départ aussi sur ce qu'on voulait. Et je crois qu'on n'a jamais été, ni lui ni moi, finalement, si confortable que ça. Mais qu'on a... Peut-être que justement, parce qu'on avait beaucoup d'attentes, parce qu'on se connaissait très bien, et qu'on se disait, c'est sûr qu'à un moment, ça va bien marcher, tu vois, on se connaît tellement bien, on s'aime tellement, il n'y a aucune raison. Et ça nous a empêchés de voir qu'en fait, on n'était pas si compatible que ça. Donc on a insisté longtemps, trop longtemps, et on s'est fait beaucoup souffrir, je pense. Et tu vois, dans cette relation, ça m'a fait penser au conte de Cendrillon, tu sais, le classique, où les deux sœurs, t'en as une qui se coupe les orteils et l'autre qui se coupe le talon pour rentrer dans la pantoufle de verre, tu vois.
Ouais.
Ben moi, j'ai l'impression que j'ai fait ça pendant 2 ans.
Ouais. Et tu dis beaucoup, je pense, c'est quelque chose dont t'as pu parler avec lui ?
On en a parlé... Je crois que... Tu vois, j'ai dit je crois.
Ouais,
que
non, c'était pas pour te faire bugger sur l'utilisation du mot je pense.
Automatique de langage, là, je les avoue.
Mais c'est pas... Enfin, c'est que ça avait l'air d'être toi, ce que tu ressens, ce que t'as ressenti, mais de son point de vue, j'avais l'impression que t'étais pas certaine que lui aussi pouvait ressentir la même chose, quoi.
Je sais pas trop ce qu'il a ressenti.
Ouais.
On en a beaucoup parlé... Mais dès qu'on en parlait, moi j'avais l'impression qu'il se renfermait, tu vois, beaucoup, que c'était quelqu'un qui... Alors que je connaissais en plus, dans la sphère professionnelle et amicale, comme tout à fait en capacité de gérer des conflits, tu vois, avec beaucoup de bagou. Et en fait, avec moi, ce que j'ai compris de cette relation-là, c'est que moi j'amenais pour lui beaucoup de violence. Ma manière d'interroger la relation était très violente pour lui. Okay. Donc, il se renfermait beaucoup. Et généralement, bah, il partait, quoi. Donc, il me quittait. Ouais. Donc, moi, au début, tu vois, je le prenais vraiment au premier degré en me disant, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Donc, je m'effondrais. Et en fait, j'ai vu petit à petit que ses départs, c'était plus une façon de mettre à distance, tu vois, un niveau émotionnel qui était beaucoup trop fort pour lui. Et finalement, il finissait toujours par revenir quelques semaines plus tard. Ce qui était très dur pour moi, hein, parce que cette question d'abandon dans mon histoire, c'est quelque chose de très fort. Et dans cette relation-là, bah, je me le suis fait éprouver plusieurs fois. Je disais à mes copines pour rire que j'avais été plus larguée qu'un parachutiste, tu vois, pour te dire. Donc voilà, régulièrement, bim.
Et c'était toujours lui de son côté.
Ouais, ouais. Okay. Par contre, le dernier départ, c'était moi. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce dernier départ, justement ?
Je crois qu'on a tous nos limites. Ouais. Je crois qu'on a tous un niveau de douleur maximum. Alors souvent, c'est un peu plus loin que prévu. Ouais. Mais il y a eu un moment où c'était juste plus possible. Mmh. Voilà, tout ce que je pouvais donner avait été donné. Je ne sais même pas si à ce moment-là, c'était encore de l'amour de mon côté. Je pense que j'en voulais énormément. Je pense que je m'en voulais énormément. C'était plus du tout de l'amour. Et puis, j'étais prête à ne plus le revoir, quoi. Parce qu'il y avait ça aussi. Il y avait le deuil de la relation amoureuse, mais on s'était tellement abîmés que je savais que j'allais perdre aussi l'amitié qu'on avait eue ensemble.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'était peut-être encore plus long à accepter. Okay. Parce que pendant 5 ans, ça avait été quelqu'un qui m'était vachement proche, quoi.
Ouais, et plus de contact
Non,
ok.
On peut pas.
C'est pas possible.
Ouais. Non, c'est pas possible.
Ok. Tu parlais de souffrance de l'abandon. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Bien sûr. Alors, moi, j'ai été abandonnée à la naissance.
Ok.
J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois, donc par mes parents. Généralement, je dis pas parents adoptifs. Là, peut-être que je vais dire un peu plus pour que ce soit clair. Mais bon, pour moi, ce sont mes parents. Je suis contente de t'en parler aujourd'hui parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter que ma souffrance était légitime par rapport à cette expérience-là.
Pourquoi ?
Bah parce que ce qu'on renvoie beaucoup aux enfants abandonnés et adoptés à un âge, tu vois, quand on est très jeune, c'est que bon, bah, ça va, tu te souviens pas.
Ah.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit de personnes qui connaissent pas du tout l'adoption, tu vois, mais aussi de personnes qui ont été adoptées et qui, voilà, qui pensent que parce qu'on ne se souvient pas, en tout cas en conscience, et que ça passe peut-être plus par le corps, par le sensoriel, on souffre pas, quoi. Et pourtant, moi, j'ai bien vu toutes les angoisses qui ont pu me traverser quand j'étais enfant, toutes les peurs que j'ai encore aujourd'hui, toute cette difficulté de construction identitaire par laquelle je suis passée. Et j'ai envie de pouvoir le dire et de pouvoir l'exprimer parce que je l'ai vachement retenu. Et je pense qu'il y a plein de moments où j'ai été très triste, où j'étais franchement perdue dans ma vie et où je pouvais pas imaginer que ce soit aussi lié à ça. Voilà. Et ce que j'ai pas mal remarqué, et ça pour le coup qui m'a mis très en colère en grandissant, c'est que souvent, il y avait une empathie assez importante et du côté de la mère biologique et du côté de la mère adoptive et qu'on se mettait assez peu à la place de l'enfant, tu vois.
Okay.
Bon, on m'a souvent dit « Ah, mais tu sais, quand même, ça a dû être très dur pour elle de t'abandonner. C'était un acte d'amour. » Alors déjà, et je le dis parce que malheureusement, quoi, on n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non.
Ouais.
J'imagine que certaines personnes me disaient ça peut-être par anticipation pour me protéger. Mais je crois aussi que c'est un énorme tabou, une mère qui laisse son enfant.
Ouais.
Et qu'en fait, c'est un peu de l'impensable et que les gens ont besoin de se raconter une histoire où t'as une mère qui pleure, qui laisse, tu vois, son enfant dans un panier sur le Nil, s'éloigner en lui souhaitant la plus belle des vies. Et moi, je crois pas. Les quelques éléments que j'ai, c'est une femme qui accouche chez elle, qui m'amène à l'hôpital, quelques personnes qui viennent nous visiter. Et puis un matin, elle décide de partir. Voilà. Okay. Et elle pleurait pas, elle était pas... tu vois, elle a pas manifesté grand-chose, elle a rien laissé dans le dossier. Donc elle a pas écrit, tu vois, pour ne serait-ce qu'expliquer pourquoi elle m'avait laissé.
Ouais.
Ni ce journal, ni les jours d'après. Parce que tu peux laisser des éléments dans le dossier pendant des années. Donc je comprends que sur le moment, il puisse y avoir un état de choc, tu vois, évidemment. Mais bon, au bout de 10 ans, 20 oui, ans, peut-être, que... dessus, ouais. peut-être ouais. qu'on mérite un petit mot. Ouais. Et bien sûr, moi, je ne suis pas du tout pour forcer des femmes qui ne peuvent pas être oui. mères, être mères. Mais je crois qu'on mérite quelque chose. Je crois qu'on mérite un mot pour nous dire qu'elle soutient notre droit de vie, tu vois, notre droit d'exister. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que je sois quelqu'un d'extraordinaire pour juste avoir le droit d'être là.
Ah oui, d'accord.
Et après, tu as l'autre discours qui vient soutenir la mère adoptive. Ouais. Parce que ma maman, elle n'a pas pu tomber enceinte, elle a eu un cancer. Donc mes parents ont choisi d'adopter. Et c'était bah, quand même, tu sais, par, avec tout ce qu'ils ont dû traverser, c'est quand même des gentils parents. Tu as de la chance d'avoir été adoptée par eux. Alors oui, je ne vais, vais pas dire le contraire. Ouais. J'ai des parents qui m'aiment, qui m'ont donné... accès à énormément de choses, à des voyages qui m'ont beaucoup soutenue dans mes études. On a eu des rapports parfois très, très, très compliqués, très douloureux avec ma mère. Mais j'imagine que notre situation aussi, et puis les parents adoptants, c'est pas n'importe quel parent. C'est des parents qui ont dû traverser aussi la stérilité du couple à un moment donné, qui investissent peut-être différemment que dans d'autres familles. Et puis dans les familles adoptives, bah, on a des problèmes aussi, comme dans d'autres familles, qui sont parfois les mêmes. Mais tu vois, moi, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, bon, j'ai été une mauvaise fille pour la première, parce que quand t'es enfant, t'imagines que quand on te quitte, c'est quand même un peu de ta faute, quoi. Ouais. Et puis, il va falloir que je sois une super fille pour mes parents adoptifs, quoi. Et donc, le fait d'être en plus assez souvent en conflit avec ma mère me faisait penser que bah, j'étais vraiment quelqu'un de mauvais, quoi.
Et quand tu parlais là de ces réflexions que tu te recevais, des commentaires qu'on te faisait, c'était dans quel contexte ? C'était des adultes, j'imagine, qui te disaient ça ? C'était, c'était qui, en fait ?
Eh bah, tu serais étonnée de savoir que, bon, évidemment, il y avait des personnes qui étaient dans la famille, des membres de la famille, des amis de la famille. Mais étant noire dans une famille de blancs, donc mon adoption se voyait, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Est-ce que c'est mieux que ça se voit ou pas ? Mais le nombre de commentaires qu'il y avait dans la rue... comment les personnes s'autorisaient à commenter notre situation de famille. Donc moi, je me rappelle, tu vois, de dames qui venaient, qui disaient « Oh, bah, elle est jolie, votre petite noire, vous l'avez eue où ?» Et pas, ça, je te... Oui, parce que je te vois écarquiller les yeux. Mais ça, c'est pas arrivé une fois ou deux, quoi. Et qui te t'interrogent « Mais alors, pourquoi vous l'avez adoptée ? Et puis elle vient d'où ?»
Des inconnus, puis, quoi.
Des inconnus. Parce que ça se voit. Et je me disais, mais enfin... est-ce qu'ils se rendent compte que j'entends tout, que je comprends tout Et donc, t'es à côté et tu te prends ça. Et étant noire, en plus, tu vois, dans un pays, la France, voilà, de personnes blanches, quoi, de peau, bah, moi, la question qu'on me pose très souvent, et tu me l'as posée tout à l'heure et j'ai attendu un peu avant d'y répondre, c'est bah, tu viens d'où ? T'es de quelle origine ? Cette question-là, on me la pose de façon hebdomadaire.
Mais je t'ai dit, tu viens d'où, genre de Paris ?
Tu vas dire, mais exactement. Mais très souvent, tu vois, quand on me dit tu viens d'où, c'est tu vois, t'es black, tu vois, tu viens de quel pays, quelles sont tes origines. Et en plus, les personnes ne pensent pas à mal. Ils disent oh, c'est sympa, on va faire du lien avec son histoire. Et moi, je suis ok. Ouais. Et à chaque fois, alors je dois. Alors ça dépend, tu vois. Parfois, je vais dire effectivement, donc mes origines antillaises, sauf qu'ils veulent toujours en savoir plus. Ah, mais Martinique, Guadeloupe, donc bon, voilà, bon, je sais pas trop, machin. Parfois ça m'énerve et puis j'ai pas envie de répondre et puis je dis mais après tout pourquoi il faudrait forcément justifier d'où on vient, mais je sais que pour plein de personnes c'est une question qui, tu vois, qui s'apprécie beaucoup, quoi. Mais c'est, ça fait 33 ans que chaque semaine avec des personnes que je connais pas on vient m'interroger sur cette question, d'où je viens, quelles sont mes racines, quelles sont mes origines, et ça me rappelle que ben je sais pas.
Ok, est-ce que tu perds patience par un moment? Tu réponds toujours plus ou moins ce que tu as envie de répondre, quoi.
Il y a une période où je perdais vraiment patience. Puis c'était l'époque où j'étais assez fragilisée en fin d'adolescence, peut-être début d'adolescence. Où là, j'ai eu un peu comme un vacillement identitaire, tu vois. Et je supportais pas parce que ça venait un peu gratter là où ça faisait mal. Maintenant, je suis un peu plus pédagogue là-dessus. Mais ouais, il y a un moment où c'était particulièrement douloureux, quoi. Le moment où tu te cherches, bah comme les autres, et en plus, toi, t'as d'autant plus de bonnes raisons de douter de qui tu es. Et... D'autant, c'est quand t'as les... quand t'as des phrases du genre « c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va », tu dis « ouais, bon, merci !» On veut quand même essayer d'aller quelque part, même si on sait pas d'où on vient.
Ah, le genre de phrase à la con, putain.
Horrible.
Ah, ouais. Tu parlais tout à l'heure de psychanalyse, que t'avais vu pas mal de psy et tout. Est-ce que c'est quelque chose que t'as commencé tôt et t'as pu parler de tout ça? Qu'est-ce qui a déclenché ces premiers rendez-vous
Alors, les premiers, premiers rendez-vous à l'initiative de mes parents, j'étais extrêmement anxieuse, petite fille. J'avais très, très peur des autres enfants. J'arrivais pas à me faire des amis. J'étais complètement repliée sur moi-même. Alors qu'avec les adultes, tu vois, j'étais hyper à l'aise. Et j'avais un peu comme une... Tu as une grande maturité intellectuelle, déjà, mais par contre, une très grande immaturité émotionnelle. Donc, je pleurais très vite, je supportais pas la frustration. Je supportais très mal les changements. Et je voyais bien que par rapport aux autres enfants, j'étais beaucoup plus affectée qu'eux, tu vois, pour des petites choses, quoi. Tu vois, un adulte qui te parle avec une voix un petit peu forte et tout, bah, ça y est, moi j'ai peut-être fait quelque chose d'hyper grave, machin, alors que je voyais que les autres gamins, ils faisaient beaucoup plus facilement avec l'environnement que moi.
D'accord.
Et finalement, ce qui a été assez terrible, je pense que ma première visite chez le psy a été un peu ratée. Le psy m'a trouvée très bien. Il trouvait que j'allais bien, quoi. Au fond de moi, je pressentais que y avait quelque chose, il y avait une fragilité que les autres enfants n'avaient pas. J'ai revu un psy ensuite quand j'étais adolescente, une psychologue que j'avais trouvée super, qui était quand même, tu sais, par contre dans le en face à face, quoi. Donc on n'était pas, tu vois, dans une dans un dispositif analytique et tout, mais qui était très très bien. Qui est malheureusement partie à un moment où on avait une vraie accroche toutes les deux et qui m'avait proposé de continuer à la voir dans un autre cabinet, mais un peu plus loin de chez moi. Et là, mon père s'est un peu interposé. Je ne sais pas s'il a senti que j'étais en train de bouger, mais finalement, j'ai pas pu soutenir la parole de la psy et surtout du travail que j'étais en train de faire avec elle. Donc, la thérapie s'est arrêtée. Et après le bac, par contre, là, j'ai eu une période... très 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 difficile, où là pour le coup j'ai pas été suivie, parce que je pense que j'étais même pas en capacité de penser ce qui était en train de m'arriver. C'est la période où j'ai commencé à rencontrer les hommes, où l'anxiété que j'avais, t'es déjà toute petite avec les autres enfants, c'est vraiment rejoué, donc j'avais très envie d'aller au rancard, c'était une période où je commençais à plaire, tu vois, et puis beaucoup, je crois que ça m'a fait très peur de plaire aux hommes, que... même si c'était quelque chose comme plein de, tu vois, plein d'adolescentes que t'attends d'être invitée, bah finalement quand ça m'est arrivé, ça m'a fait vachement peur, leur désir, tu vois. J'ai eu peut-être peur de me faire un peu avaler, quoi, un peu avaler toute crue. Donc pour pouvoir aller au rendez-vous, après en avoir annulé plusieurs, tu vois, une heure avant, 10 minutes avant, j'ai commencé à picoler. Comme pour avoir, bon déjà me désinhiber un petit peu, et comme pour ne pas y aller seule, tu vois, d'une certaine façon. Donc j'ai commencé à être pas mal dans des comportements comme ça assez excessifs à ce moment-là. Et à cette période, j'ai été comme un peu débordée, quoi. Donc j'ai été avec beaucoup d'hommes différents, beaucoup de soirées. Et là, j'ai senti, enfin tu vois, que j'étais en train de trouver des aménagements pour répondre à mes fragilités qui m'ont mis très en difficulté par la suite et pendant un moment.
Et donc ça, c'était une période. T'avais quel âge à peu près?
18-19 ans, ce moment-là.
Et c'était tes premiers moments, tes premières histoires avec des gars? Avant, t'en avais pas
Non, jamais. Non, j'avais tellement peur de me faire rejeter. Puis j'étais pas la jolie fille non plus, tu vois. J'étais la bonne copine. J'étais très sportive. Je m'identifiais beaucoup aux garçons aussi, tu vois. J'avais envie d'être forte. Plus que d'être aimée ou repérée comme une jolie fille, j'avais envie d'être forte.
Et qu'est-ce qui a switché pour que tu deviennes jolie fille? Parce que je te vois et je te trouve très belle. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ta tête où il y a eu une attitude qui a été différente?
Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais que la première fois où un garçon m'a trouvé vraiment à son goût, c'était d'ailleurs dans une colo. Donc t'as raison, c'était déjà un petit peu avant. Et c'était une histoire complètement dingue. Le mec était absolument magnifique. C'était le beau gosse, brun aux yeux bleus, t'es musclé, machin. Moi, je ne l'envisageais même pas. Donc on faisait des matchs de volley, je sortais transpirante, tu sais, vraiment, mais la sueur jusqu'au coude. Enfin, C'était inimaginable. Ouais. Et c'était l'âge où on se fait des blagues. Donc les garçons, super les gars, faisaient des paris, donc invitaient faussement des filles et tout. Donc quand il est venu me dire, parce qu'il est venu hyper courageux.
Je croyais pas.
Mais pas du tout. Ouais. Mais tu sais qu'à un moment, je l'ai quand même tapé, quoi. Je lui ai dit que c'était vraiment dégueulasse de me draguer comme ça, que je savais très bien qu'il n'était pas intéressé. Il en a pleuré.
Ah ouais.
Non mais si tu veux, je n'y croyais pas tout, quoi. Il m'a fallu des années pour me dire, bon, ok. Mais tu vois, c'est la question du désir aussi. Ne pas être aimé par ta mère dès le départ, c'est compliqué d'envisager que d'autres personnes puissent t'aimer comme ça, juste parce que tu es comme tu es, tu vois.
Dans cette période-là, 18-19 ans dont tu parlais, donc c'était pas la recherche de l'amour, la recherche du couple, c'était plus la recherche des hommes, des rencontres, des expériences
Ah non, j'étais pas du tout aventurière pour chercher des expériences. Non, moi, je croyais que je pense que je cherchais un amour qui me sauverait un peu.
Ok, tu recherchais quand même. J'avais plus l'impression que c'était une période pour toi où tu faisais un peu la fête et voilà, c'était pas très sérieux, tu vois, de rencontrer des mecs.
Ah, quand même, à chaque fois, j'avais un espoir immense.
Tu croyais,
Ouais. Après, j'ai eu quand même un découple hein, dans ces périodes-là, mais je rencontrais déjà des hommes. Et c'est très récent que j'ai conscience de ça. Tous les hommes que j'ai vraiment aimés, ce sont des hommes qui m'ont renvoyé une image très négative de moi. Pour aller avec l'image très négative que j'avais de moi, évidemment. Et tous les hommes, je pense qu'ils m'ont... il y a des hommes qui m'ont dit qu'ils m'ont trouvé très sympa, très cool, que ça avait été génial d'être avec moi. Ces hommes-là, ça créait comme une espèce de conflit interne, tu vois. C'est-à-dire que si tu me vois comme ça, t'es pas d'accord avec moi, donc t'es peut-être un peu bête, quoi. Donc tu t'es peut-être trompée, tu vois. Donc je venais tout de suite dénigrer ça et je partais assez rapidement.
Okay.
Donc mes grandes histoires d'amour ont été avec des hommes... souvent un peu plus abîmé que moi, ce qui était quand même un très bon alibi, tu vois, pour continuer à faire un peu n'importe quoi aussi avec eux, en disant, bah oui, mais lui, il a quand même bu un peu plus, mais il a pris quand même un peu plus de drogue. Ouais, enfin, j'étais quand même pas très loin derrière. Ça me permettait aussi d'être un peu donneuse de leçons, faut le dire. Et puis, ça venait me conforter dans le fait que j'étais quelqu'un de mauvais, quoi.
Mais c'est quelque chose qu'il formulait ?
Ah, certains, ouais, carrément.
Mais comment ça se traduisait, quoi ?
Ah bah par des termes, comme ça, quoi, que j'étais désagréable, dure, difficile. Bon, là, j'ai du le corps parce que je pense que j'ai honte de répéter ces mots-là, tu vois.
Mais quelque chose avec lequel tu étais d'accord par moment, où tu pouvais être difficile avec eux et tout, ou pas du tout et...
Certainement que oui, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que tous les hommes ne s'étaient pas dit ça. Tu vois, et que finalement, ceux que j'ai le plus écoutés, c'est ceux qui disaient les choses les plus négatives sur moi. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de mal à garder les discours positifs, mais que tous les discours négatifs, eux, par contre, je les gardais. Et puis, pendant des années, quoi.
Tu disais que tu t'en étais rendu compte il n'y a pas longtemps. Comment ça se fait que tu t'es rendu compte de ça il n'y a pas longtemps ?
Parce que je crois que je commençais quand même à aller un peu mieux. Hein, je te disais, j'ai eu une période très difficile où j'ai quand même eu des sacrées conduites à risque. Donc vers 18-19 ans, où je me suis quand même pas mal scarifiée. Enfin, j'ai tout fait, quoi. J'ai fait les drogues, j'ai fait les scarifications, j'ai fait de la boulimie. Tu vois. Mais finalement, j'étais pas tant que ça boulimique, j'étais pas tant que ça alcoolique. Ce que je recherchais, c'était l'excès pour ressentir des choses et pour me sentir vivante. Parce que je me sentais très vide. Et alors pendant très longtemps, je pensais qu'il me manquait peut-être ma mère biologique. Après, je pensais qu'il me manquait l'amour d'un homme. Et ce que j'ai compris, c'était que ce qui me manquait le plus, c'était moi, quoi. Je me manquais beaucoup à moi-même. Et grâce au travail que j'ai fait, c'est pour ça que je disais que ça m'a quand même un peu sauvé la vie. C'est-à-dire que le résultat du concours que j'ai eu, où je suis arrivée première... je l'ai eu 2 jours après être sortie de l'hôpital, après m'être taillé le bras comme jamais, dans une flaque de sang, un truc terrible. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais scarifiée. C'est-à-dire que c'est vrai que la thérapie, c'est hyper important, mais parfois, il y a aussi des choses concrètes dans la vie qui nous sauvent.
Ouais.
Et pour moi, ça a été radical. Ce travail m'a beaucoup permis Et déjà, bon, de me nourrir parce que j'accompagnais d'autres personnes qui étaient en souffrance et parce que je pense que la souffrance, j'en connaissais quelque chose. Mmh. Et ça m'a permis, si tu veux, d'avoir plus de consistance, de m'ouvrir plus à des choses qui m'intéressaient. Parce qu'avant, j'étais quand même... J'étais tellement dans cette agitation pour trouver quelqu'un, pour vivre des sensations fortes avec les autres, que j'étais bien incapable de dire quelle musique me plaisait, quel bouquin j'aimais. J'étais pas capable de m'occuper seule. Un week-end qui devait arriver sans soirée de prévu, pour moi, c'était un week-end de foutu. Ouais. J'avais très peur de mourir et en même temps, j'avais l'impression que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Parce que je pense que, tu vois, pour moi, la... mourir et la sensation d'abandon, c'était la même chose. Mmh. Parce que pour un bébé, l'abandon, c'est tellement sensoriel que c'est comme une petite mort, tu vois. Mmh. Sans l'objet d'attachement, tu meurs aussi un petit peu. Et le fait, effectivement, de pouvoir petit à petit découvrir des choses qui me plaisaient vraiment. Bon, moi, j'ai adoré la science-fiction. Maintenant, je suis une très grande lectrice. De découvrir les podcasts, de découvrir la plongée. Donc, moi, c'est une activité que j'adore. Donc, je plonge tous les étés pendant 2-3 semaines à l'autre bout du monde. Enfin, voilà. La danse contemporaine, peindre. Maintenant, tu vois, être seule, non seulement c'est plus une contrainte, mais c'est un plaisir, ouais. Quoi. Et parfois même, je me dis... un peu trop dans le sens où ça commence à devenir défensif avec les mecs, mais c'est assez extraordinaire, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, pendant cette rupture, j'avais quand même fait un petit peu de chemin. Cette dernière rupture-là, j'avais fait un petit peu de chemin et c'est ce qui m'a permis de quand même un moment de me rendre compte qu'il y avait un gros problème, quoi. Et que j'étais vraiment en train de reproduire l'abandon, mais que c'était pas lui qui m'abandonnait, c'est moi qui m'abandonnais au profit de quelque chose.
Putain. Très intéressant, je trouve, et très clair.
Bah, tant mieux, parce que j'avais très peur que ça ne soit pas.
Carrément. Tu m'as fait rêver avec la plongée, parce que j'en ai fait une fois dans ma vie. Oh, et voilà. C'était un moment, mais ouf.
C'est incroyable.
Je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Ouais. J'aimerais en refaire. Je sais pas, j'ai ces images, ces couleurs, cette lumière, en fait.
Ouais.
Quand tu descends et que tu vois en haut et ce calme. Ouais. Mon Dieu, ce calme, putain, c'est que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et cet apaisement, enfin bref, je m'as fait rêver avec ça. Est-ce que depuis 2 ans, donc tu me parlais de cette période, est-ce que tu as fait des rencontres quand même? Est-ce que tu repousses un peu les rencontres? Comment tu te situes par rapport à ça?
Alors j'en fais un petit peu. Le problème que je rencontre, mais ça je pense que pour le coup je suis pas la seule, je me reconnais... dans beaucoup de discours d'autres femmes et d'hommes, c'est que ben, j'ai ma vie qui s'organise autour de mon travail, qui est en plus dans un milieu quand même assez féminin, donc je rencontre très peu d'hommes dans mon boulot. Et puis bon, celui que j'ai rencontré au boulot, hein, voilà, ça n'a pas été une grande réussite. J'ai quand même beaucoup d'amis qui sont en couple. Je pense aussi que j'ai un peu peur de sortir... trop. Tu vois, je sors encore, ça m'arrive évidemment de boire des verres avec des copines, mais j'ai quand même constaté que j'avais une certaine fragilité par rapport, tu vois, aux substances psychoactives en règle générale.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, très vite, ça me tente, quoi.
Okay.
Donc, sortir comme avant jusqu'à 2-3 heures du matin, bien bourré pour trouver quelqu'un, je sais vraiment que c'est pas bon pour moi aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de proposer à un homme. Donc, il m'arrive... aussi d'aller sur les applications de rencontres et ça me plaît pas du tout, quoi. C'est-à-dire que cette rencontre qui est déjà organisée, prévue, où t'as déjà tout ton imaginaire, tu vois, qui s'agite, bah généralement quand la personne arrive t'es déçu, c'est pas du tout la personne que t'avais dans la tête. Bon, donc pour le moment non, j'ai envie, j'essaye de m'offrir des opportunités. Mais t'as raison quand tu disais, est-ce que t'évites pas un petit peu aussi? Sans doute que je pourrais en faire quand même un petit peu plus. Voilà. Et que j'ose pas encore tout à fait. Je crois aussi que j'ai très peur de tomber amoureuse et que ça vienne tout emporter sur son passage. Là, j'ai quand même trouvé un équilibre de vie que j'avais jamais trouvé. Tu vois, je te disais, j'ai été... une gamine très apeurée, une adolescente qui se cachait dans des attitudes de garçon. J'ai été une femme qui a été désirée par beaucoup d'hommes mais qui n'a pas su quoi faire de ce désir et puis qui a dû se mettre dans pas mal d'addictions pour gérer ça. Donc oui, j'ai très peur que l'équilibre dans lequel j'ai l'impression d'être bien installée, bah, peut-être soit pas si solide que ça. Et ça, pour moi, ce serait vraiment une catastrophe, quoi. Je tiens beaucoup j'arrête pas de dire équilibre, mais aussi à cet état d'apaisement que j'ai. Et tu vois, même si je sens beaucoup plus ma timidité que quand j'étais en sortie, machin, dans mes robes rouges, talons, et ben en même temps, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, de t'avoir contacté, de venir te voir, ben jamais j'en aurais été capable à l'époque. Le fait de changer de travail après 10 ans, jamais j'en aurais été capable. Donc même si je me sens beaucoup plus connectée à ma sensibilité, tu vois, je tremble depuis tout à l'heure quand je parle.
Ah oui, j'ai pas vu.
Mais si, je tremble. Et ben en même temps, j'ose faire des choses qui ont vraiment du sens pour moi.
Ouais. Oui, oui, où tu te choisis, quoi, tu fais tes choix, tu parlais de tes passions tout à l'heure, c'est à tous les niveaux, quoi.
Ouais.
Donc forcément, ça fait peur d'avoir quelqu'un, d'accepter quelqu'un qui peut faire tout péter dans tout ça.
Ouais.
Est-ce que tu recherches quelqu'un qui a fait ce travail aussi, comme toi, qui est apaisé ?
Ah ouais.
Ouais.
Ouais. Là, aujourd'hui, je pense que ce serait inimaginable pour moi d'être avec une personne qui est beaucoup dans l'apport de force, qui n'est pas ouvert à la discussion. De toute façon, là, je pense qu'il faudrait quand même aussi quelqu'un d'assez compréhensif, hein, parce que voilà, j'ai mes bagages. Moi, ça m'irait très bien qu'un homme ait ses bagages aussi.
Ouais.
Et puis, peut-être quand même qu'il soit sensible à l'autre. Et voilà, moi, j'ai quand même un grand intérêt pour le vivant, sous toutes ses formes, que ce soit pour l'être humain, pour l'environnement, pour les animaux. Pour moi, tout est lié. Et choisir le vivant, en plus, aujourd'hui, je crois que c'est aussi un choix politique et militant. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de le partager dans un couple.
Est-ce que, par rapport à tes amis qui sont en couple, à cette période, à cette tranche d'âge, ça t'embête un peu d'être pas en couple, d'être seule, célibataire ?
Est-ce que ça m'embête ? Alors, ça m'embête pas dans le sens où, moi, mes amies, je suis leur plus grande fan. Elles ont leur bagage aussi et Dieu sait qu'elles le méritent. Et en plus, j'ai quand même contribué à beaucoup de leur couple.
Ah, c'est trop bien ça.
Certains de leurs compagnons ne savent pas que c'était moi sur les applis de rencontre, les premières phrases. Donc, je fais un peu partie du truc, tu vois. Il y en a qui m'ont rigolé en écoutant ça, je pense. Donc, voilà, je peux pas, tu vois, contrecarrer leur plan, c'est pas possible.
Non, et c'est pas tant une jalousie, tu vois, envers tes amis, mais c'est plus cette place-là dans la société, tu vois.
Écoute, je crois pas, franchement, je crois pas, je suis plutôt inquiète. Et là, c'est peut-être la question de la maternité.
Ouais.
Voilà, parce que moi, je crois tout à fait en l'amour à tous les âges. Donc voilà, si je rencontre un beau gosse quand j'aurai 75 ans, c'est OK, il n'y a pas de problème. par contre, la maternité, bon, bah, pour nous, c'est quand même une vraie question. Il y a quand même une limite. En plus, bon, moi, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Je crois que j'en ai envie, franchement. Je crois que là, par contre, en termes de peur, on est vraiment sur le max de peur que je peux avoir. Évidemment, avec le fait de tout cet enjeu maternel qui fait partie de mon histoire, la peur peut-être de reproduire inconsciemment un abandon. J'avais cette peur d'être une mauvaise fille. Évidemment, maintenant, c'est la peur d'être une mauvaise mère. En tout cas, la question de la famille m'intéresse beaucoup, tu vois. Moi, j'ai été élevée donc, par mes parents, mais aussi par mes grands-parents paternels.
Okay.
On vivait dans le même immeuble.
Okay.
Pendant les 10 premières années de ma vie, les parents de mon père étaient venus les rejoindre quand ma mère est tombée malade de son cancer. Donc, si tu veux, moi, mes grands-parents, ce n'étaient pas ceux que je voyais juste à Noël et aux anniversaires. Quoi. Je les voyais tous les jours. Ils ont été très importants pour moi. Mon grand-père nous a quittés il y a 3 ans. Ça a été pour moi un déchirement, mais total. Enfin, tu vois, justement, il y avait la rupture, il y avait ça. C'était vraiment un cauchemar. Et je garde des souvenirs, mais hyper heureux et aussi hyper nostalgiques de cette période où j'entendais le rire de mon père, je sentais le cigare que fumait mon grand-père, je voyais ma mère s'activer avec les petits gâteaux. Enfin, c'était hyper réchauffé. Souvent, il y avait l'oncle et la tante qui venait aussi, donc il y avait beaucoup de monde, ouais, c'était très chaleureux, et je serais vraiment, ça serait vraiment dommage pour moi de ne pas pouvoir revivre ça, alors à une autre place évidemment, mais ouais, au fond ça me fait envie, mais bon, faut-il encore rencontrer la personne avec qui faire ce projet, et par contre, et je ne le juge pas du tout, hein, moi je connais beaucoup de femmes qui justement, parce qu'elles ont... elles n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer quelqu'un qui envisagent peut-être d'avoir un enfant seul, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas l'imaginer. Alors, je te dis ça tu vois, maintenant, peut-être que dans 4 ans, je te dirai complètement autre chose. Mais voilà, moi, la famille, c'est ce qui m'intéresse plus que d'être mère,
ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, c'est d'avoir un... Enfin, là, de ce que tu dis...
La tribu, quoi.
Ouais, c'est ça, une tribu.
Ouais.
Quand tu racontes ça, tu vois tout de suite l'image du truc et ça donne envie, c'est ouais. Sûr, quoi. Est-ce que tu penses que ça peut biaiser un peu les rencontres que tu peux faire, d'avoir ce désir-là ou pas du tout?
Non, franchement, je crois pas. Ouais. Je pense que hormis...
Moi, je valide, je suis ouais. D'accord avec toi de ce que tu penses non. De toi. Je crois pas non plus, mais je demande...
Je pense
ça.
Que hormis, effectivement, un homme qui me dirait « je n'en veux pas jamais, c'est sûr
ouais. »,
parce que moi, je suis quand même pour l'amour. Oui. Et bon, peut-être que j'aurais pas d'enfant et que j'aurais un couple super.
Ouais.
Ça m'embêterait que quelqu'un, effectivement, m'impose complètement... Enfin, ouais. m'impose au couple, en fait, parce que c'est, tu vois, c'est pas une question de dualité ou quoi que ce soit. De dire voilà c'est vraiment pas possible, si moi j'avais ce désir je pense que là j'irais pas plus loin dans la relation. Mais si c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui sait pas trop, enfin moi je trouve que c'est assez sain oui. Tu vois de ouais. Se rencontrer, de prendre le temps. Pour moi la relation amoureuse c'est hyper important hein. C'est-à-dire ouais. Que je s'il y a tribu ce sera avec quelqu'un que j'aime infiniment ouais, et qui j'espère m'aimera ouais, oui. Tout autant et sinon et bah tant pis, il y aura d'autres façons de faire tribu avec d'autres. Ouais.
Voilà. Et je disais ça aussi par rapport à certaines femmes qui veulent avoir un enfant prochainement et du coup, tu vois, ouais. Qui vont avoir des critères qui vont un petit peu changer par rapport aux critères de sélection, de rencontre, tu ouais. Vois, en se disant « Ah bah lui, ça peut être un bon père
ouais. »
alors que, je sais pas, physiquement, il va moins correspondre à mes attentes, ouais. J'en sais rien, tu vois. Mais je pense qu'il y a un âge comme ça qui peut être... qui est emmerdant, quoi, pour nous. On
c'est
est
vrai.
Là, genre, on a une deadline au bout d'un moment.
Alors ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que mes critères ont vachement changé,
ouais.
Mais pas forcément par rapport à ça. Je pense que maintenant, là où avant je cherchais des hommes avec qui je pourrais vivre une grande passion,
ouais.
Puis alors je te jure, je scénarisais les choses.
Ouais.
On se retrouvait sous la pluie, c'était que des histoires de films, quoi.
Ah.
J'avais couru derrière un mec que j'adorais, j'étais montée dans sa voiture. Heureusement que je suis une femme, parce que sinon, niveau consentement, j'aurais eu des soucis. Et je lui ai dit, emmène-moi avec toi. Il me dit, comment ? Mais on se connaissait à peine, si tu veux. C'était un barman sur qui j'avais jeté mon dévolu.
Ouais.
Bon, finalement, il m'a emmenée, hein, voilà. C'était très, très chouette. Mais je ne faisais que des trucs comme ça.
Ouais.
Bon, maintenant, voilà, on arrête... on arrête ce genre de choses. Mais ça fait quand même des anecdotes sympas pour les copines. Donc, je recherche pas une très haute intensité
oui.
Comme ça, tu vois. Mais par contre, je cherche vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de partage, beaucoup de complicité et à ce
ouais.
Que je puisse être avec l'autre. Bon, ça fait un peu praline, tu vois, mais aussi dans un rapport très amical. C'est-à-dire que je puisse me sentir de faire vraiment la blague que je ferais à mes potes. Et, mais
oui.
Tu vois, pas te dire, ah ben non, c'est mon mec quand même. Tu
ouais.
Vois. Non, ça m'intéresse plus
ouais,
du tout
ouais.
D'être dans du paraître,
ah bah oui.
Ni d'être dans la séduction en permanence. J'ai envie qu'on se plaise vraiment et
ouais,
qu'on n'ait pas à inhiber des parties de nos personnalités, tu
ouais,
vois.
Oui, bien sûr. C'est quoi un couple idéal pour toi ?
Waouh ! C'est quoi un couple idéal pour moi ? Oh mon Dieu. Je vais te dire ce à quoi je pense. Hein. Ça m'embête de répondre ça. Le couple de mes parents.
Ouais. Pourquoi ça t'embête de répondre ça ?
Ah, parce que j'avais envie d'être un peu plus imaginatif que ça. J'avais pas envie de retourner du côté des parents, de l'idéalisation des parents. Non, ce que j'admire beaucoup dans le couple de mes parents, c'est qu'ils s'aiment profondément.
Ouais.
Ça ne les empêche pas d'être dans la conflictualisation assez régulièrement.
Okay.
Moi, je trouve qu'ils ont quand même cette capacité à faire beaucoup de choses ensemble et être très en accord sur des valeurs importantes, tout en ayant des espaces assez individuels. Tu vois, mon
ouais.
Père, il adore faire du japonais. Ma mère, elle fait sa mosaïque. Ils ont fait énormément de voyages ensemble. Et le fait d'avoir des enfants n'a jamais empêché ça. Tu vois, moi, j'entends beaucoup, dès qu'on a des enfants, ça
oui,
y est, c'est terminé.
Bien sûr.
Bah alors non, nous, on a été embarqués dans tous les pays du monde, quoi. Bon, il faut un petit peu de moyens, mais c'est des choix aussi. Hein. Ils étaient enseignants tous les deux.
Ouais.
Donc, ils ont fait le choix de mettre vraiment tous les sous pour qu'on puisse voyager et voir du monde. Mon père, et ça, pour ça, je l'admire aussi, hein, il n'était pas avec ma mère depuis très longtemps, quand elle a eu son cancer.
Mmh.
Bon, il aurait pu gentiment partir,
ouais.
Tu vois, claquer la porte. Et il est resté et ça les a soudés, tu vois.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand ils me parlent de leur couple séparément, tu vois, donc peut-être qu'ils vont me faire des petites confidences, machin, ouais. Ils me disent, mais avec énormément de... Je sais pas, presque de lucidité, mais je suis vraiment content du choix que j'ai fait, quoi. Je suis ouais. vraiment content d'avoir choisi ta mère. Oui. Ma mère me dit, je suis vraiment content d'avoir choisi ton père. Bien sûr que ça aurait pu être quelqu'un d'autre,
ouais.
mais on a fait une super équipe, on est très content bien. De faire notre retraite ensemble, on est bien tombés, tu vois. Et je trouve ouais. que à 64 et 66 ans, après 30 ans de mariage, pouvoir dire ça, mais vraiment avec beaucoup de sincérité, dire c'était cool, quoi. Vraiment, on a misé sur le bon cheval. Ouais. Pour moi, c'est ça un couple idéal.
Et tu penses que l'amour avec un homme toute une vie, c'est possible ?
Bien sûr.
Ok.
Bien ah ouais, alors là, t'étais convaincue. Ah
ouais. Tiens, tu ouais. vas sortir, bien sûr. ouais.
Ok.
Carrément.
Pourquoi, justement ?
Je sais pas, c'est une conviction profonde. Et je te dis, je pense que voir l'amour de mes parents... Mmh. Moi, honnêtement, hein, je pense qu'ils s'aiment... vraiment, et que c'est pas qu'une question d'habitude. Ça se voit, ils ont eu des compagnons, des compagnes avant, tu vois, mais ils en... D'ailleurs, parfois, ma mère en parle, ça énerve beaucoup mon père.
Ça, c'est trop
le
drôle.
Le fameux François, avant mon père.
30 ans après, tu sais.
C'est
ça, l'autre, il est trop énervé.
Mais ça aussi, je trouve ça génial.
Ben, génial,
d'être
ouais.
un peu jaloux, genre, c'est bon, je sais pas, nous, ouais, ouais. de parler de François pendant tout le dîner, François. Tu vois. Mais je trouve ça super. Et... Ouais, moi j'y crois vachement à ça. Ouais. J'y crois vachement. Et je pense que... Mais ça, c'est comme le job. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais ça fait 10 ans, t'avais pas eu envie de changer avant. » Mais je pense que ce qui... En tout cas, de mon point de vue, hein, quand tu restes au même endroit ou avec la même personne, t'as tout le temps du changement. Ouais. Parce que t'évolues avec la personne, donc... Le lien évolue, individuellement vous évoluez, et en fait il y a un renouvellement perpétuel, quoi.
Mmh.
Et tu n'es pas au même endroit quand t'as 25 ans, quand t'as 35 ans, quand t'as 45. Donc moi je suis convaincue que toute une vie avec la même personne, ça peut être beaucoup plus dynamique que moi, ce que parfois j'ai fait, hein, avoir plein de couples différents qui durent un an, deux ans, et où finalement tu répètes un peu la même histoire avec quelqu'un différent, où tu finis un peu au même endroit, où tu déduis un peu les mêmes choses sur... le sexe opposé, sur ta relation avec les mecs, parfois on s'ennuie beaucoup dans les répétitions. Hein.
Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux addictions tout à l'heure,
ouais.
Et au fait que ça t'ait aidé un peu à te désinhiber par rapport aux hommes et tout.
Ouais.
C'est un truc qui est assez rare, je trouve. On entend peu de femmes parler d'addiction, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, tu vois, mais je vois pas trop de choses à ce sujet. Comment ça s'est traduit pour toi et comment t'as réussi à t'en sortir ? Parce que j'ai l'impression que tu disais que tu t'en étais sortie.
Ah oui, je m'en suis bien sortie. Mais par contre, il a fallu au début que je m'impose une hygiène de vie un peu stricte avant de pouvoir avoir une consommation, je dirais, maîtrisée. Parce que moi, à un moment, j'ai eu une consommation qui était plus maîtrisée.
Et on parle d'alcool, de drogue aussi.
Alors, l'alcool, c'est le plus accessible. Ouais. Donc, c'est quand même là-dessus où il y avait le moins de contrôle. Mmh. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir, tu vois, à disposition des drogues dures, j'ai pas mal touché aussi.
Ok.
Alors, ce qui me paraît important, c'est de pas avoir... Enfin, en tout cas, de pas avoir une vision trop binaire de l'alcool, parce que ça m'a pris beaucoup... Mais ça m'a apporté beaucoup, tu vois.
Okay.
Parce que quand même, ça m'a permis de rencontrer des hommes, d'avoir des rapports charnels avec eux, de pouvoir échanger avec eux. Ça m'a aussi permis, ce que je disais tout à l'heure, de me créer de vraies aventures de films très romanesques. Et c'est quand même cool, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas envie de renoncer à ces souvenirs-là aussi et de dire que c'était pas moi, parce que moi j'ai des copines qui picolent, je peux te dire qu'à jamais elle serait allée aborder les mecs dans le bar, bourrée ou pas, tu vois. Donc je pense que ça venait aussi révéler un désir chez moi. Et évidemment, à un moment, ça a switché, où là c'est devenu plus un agent de destructivité qu'autre chose, quoi. Et où à ce moment-là, tu commences à aller beaucoup trop loin parce que t'as trop bu. Où tu regrettes, où tu as honte, et pour passer au-dessus de la honte, eh ben, tu rebois dessus.
Ouais.
Et à un moment, là, t'as un espèce de cercle vicieux qui s'installe, et t'arrives plus à t'en sortir, quoi. Et bah, qu'est-ce qui fait que déjà, ma consommation est devenue quand même plus maîtrisée ? Bah, on en revient à mon boulot, hein. C'est-à-dire que quand tu t'occupes d'autres en souffrance, tu peux pas être complètement pété. Déjà parce que quand même, ce sont des enfants et des adolescents qui t'envoient quand même des choses assez, assez difficiles quoi, à contenir, à accueillir, à transformer, même quand tu vas très bien et que tout va bien dans ta vie. Ouais, hein, je veux dire, c'est quand, on est quand même tu vois, sur de la psychose, c'est quand même pas évident. Donc si t'arrives, déjà même quand j'arrive fatiguée, je sens que tu vois, mon niveau de patience n'est pas le même, que je suis beaucoup moins contenante pour eux. Donc en fait, c'est pas possible, tu vois, de m'abîmer comme ça. Donc déjà, la semaine, je me maintenais quand même pas mal. Et par contre, le week-end, c'était des bandades totales. Petit à petit, j'ai commencé à voir que ça me prenait beaucoup plus que ça ne m'apportait, ce qui n'était pas le cas au départ. Qu'aussi, ça je le disais à une amie il n'y a pas longtemps, mais c'est dingue quoi. J'ai réalisé qu'il y avait certains hommes avec qui j'étais sortie. Le premier copain avec qui je suis sortie un petit moment pendant 3 ans, je ne sais pas combien de fois on s'est vu sobre ou sobre. C'est-à-dire que soit on se voyait, on avait déjà picolé, soit on était en gueule de bois de la veille, donc si tu veux, t'es quand même pas non plus hyper présent. Ça doit se compter sur les doigts de la main quoi.
En trois ans.
Il habitait pas à Paris, donc on se voyait que le week-end. Qui disait week-end, disait sortie. Donc on se voyait tout le temps en picolant. Et je me suis dit aussi que peut-être j'aurais fait des choix très différents d'hommes s'il n'y avait pas eu l'alcool dans toutes mes relations.
Pourquoi ?
Et bah parce que quand tu picoles, tu choisis des mecs qui picolent aussi. Donc déjà, ça oriente ton choix. Ensuite, quand il est minuit et qu'un homme te plaît, bah peut-être qu'il ne te plairait pas de la même façon, tu vois, dans un parc à 15h. Vous ne parleriez pas des mêmes choses. Et quand vous vous retrouvez à une autre soirée, en fait, l'illusion de la première soirée continue. Tu vois, mais jamais tu te rends compte sur des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Mais peut-être aussi qu'à l'époque, les choses importantes pour moi, c'était pas encore un sujet. J'étais peut-être pas encore prête pour ça.
Et donc, ça a été une prise de conscience sur la longueur, un petit peu. J'imagine que ce n'était pas du jour au lendemain.
Oui,
comme ça
a été plus progressif que par un peu de scarification. Là, ça a été un switch total. Ça a été plus progressif, Et... avec quand même des périodes où, assez régulièrement, mais encore aujourd'hui, je me dis, voilà, pendant un mois, je ne bois pas.
Et t'en parler sur le moment à des amis où vous étiez un peu dans le même délire, tu vois, dans ce genre d'ambiance.
Quand t'es comme ça, t'es sensiblement avec des personnes qui ont le même fonctionnement que toi, parce que tu peux pas tolérer qu'on te renvoie le problème, quand même. Que tu vois pas encore comme un problème. Moi, il m'a fallu du temps. Au début, parce qu'effectivement, j'avais eu quand même pas mal de difficultés plus jeune, je me disais, je bois parce que j'ai des difficultés. Et à un moment... Alors que tu vois, effectivement, il y avait pas mal d'éléments dans ma vie qui se mettaient en place, je me suis dit, mais est-ce que là, la dernière difficulté, c'est pas effectivement ces soirées, le week-end ? Parce que même si j'avais plus ces prises, tu vois, excessives en semaine, ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit, ça fatigue aussi de s'en vouloir pour des trucs qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Ça, c'est très fatigant de s'en vouloir et d'être dans la culpabilité en permanence. Et je crois qu'à un moment, j'en pouvais plus, quoi.
Et parfois, de ne pas s'en souvenir aussi, de s'en vouloir, de ne pas s'en souvenir, enfin, de t'imaginer des choses.
Tout à fait. Malheureusement, je me suis souvent souvenue.
Tu penses que ça aurait été mieux de ne pas t'en souvenir ?
Je ne sais pas, il y a des trucs, j'aurais... Non, mais je te dis ça, genre... Non, je pense que c'est quand même mieux de se souvenir, parce qu'au moins tu sais de quoi on parle, quoi. Mais et puis toutes tes mises en danger qui vont avec. Hein. Oui, il y a quand même plusieurs fois où j'aurais pu y passer,
Et ça a pu créer des conflits avec des amitiés que tu avais à ce moment-là, ou c'était...
Finalement, avec les vrais amis, non. Parce que moi, je suis entourée de femmes qui ont quand même toutes eu des vies assez compliquées, qui ont vécu pour certaines d'ailleurs des traumas importants. Donc on a toujours toutes été très tolérantes par rapport à nos écarts et, et à nos accidents de parcours. Et d'ailleurs, on est nombreuses en ce moment à être un peu dans cette phase-là. Moi, il y a une amie en ce moment avec qui je parle beaucoup d'alcool, de notre consommation. Elle est très au travail aussi en ce moment là-dessus. Donc au contraire, on s'est beaucoup soutenues. Et moi, mes amis, c'est hyper important pour moi. Ce sont vraiment des soutiens, des appuis. Enfin, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est familial, tu vois, à ce stade-là. Ce sont des sœurs. Enfin, c'est un lien qui est indéfectible. Je me demande pas si on sera encore en lien dans 10 ans, tu vois, c'est pas une question.
C'est des amis de longue date que t'as
Pour la plupart, ouais. Mais généralement, je me refais quand même une amie, tu vois, tous les 2 ans, et puis ça en fait une ouais. de plus, et puis je les présente entre elles, et j'ai quand même pas mal d'amis qui, alors même si elles sont en couple, sont pas non plus... De toute façon, elles sont ouais. pas hyper traditionnelles, quoi, oui. dans leur façon de penser, c'est-à-dire que même si elles avaient des enfants et qu'elles étaient ouais. en couple depuis 5 ans... Voilà, il y a quand même, sont quand même des femmes qui ont très à cœur d'interroger qui elles sont, mmh. Qui sont pour déconstruire aussi tout ce qui les fait souffrir. On se passe beaucoup de bouquins féministes ouais. à l'occasion. Ce sont vraiment des femmes extraordinaires qui m'inspirent beaucoup.
Ouais, mais c'est hyper important.
Ouais.
C'était très intéressant, merci d'avoir parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voulais aborder au sujet de l'amour ?
Écoute, non. Hormis que j'espère que pour moi le printemps est pour bientôt. Voilà.
Écoute, on est en plein dedans. J'espère ouais. que ça va le faire aussi. Je l'espère pour tout le monde, toutes les auditrices. Et pourquoi pas les auditeurs, mais ils sont très peu nombreux. Écoutez-nous, pourtant c'est très intéressant. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup. Bien.
Merci beaucoup à Nina pour son témoignage, merci à vous d'avoir écouté le podcast, et s'il vous a plu et si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça aide pas mal. Pour participer, toutes les infos sont en description et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Ciao ciao.
N'importe quoi.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.